Chapitre 2. Le proverbe antique dit « Jupiter ôte la raison à ceux qu'il veut perdre ». Jupiter avait ôté la raison au roi et à la reine de France. D'abord, contre l'avis de M. de Bouillé, qui veut deux simples diligences anglaises, la reine fait confectionner deux énormes berlines où elle pourra entasser vaches, mâles et sacs de nuit. Au lieu d'avoir un courrier avec livrée simple, la livrée de tout le monde et même sans livrée, on fait habiller trois gardes du corps à la livrée du prince de Condé. Au lieu de choisir trois hommes qui connaissent la route, on choisit trois hommes qui ne l'ont jamais faite. On les prend au hasard. Un d'eux ne connaît pas même Paris et promènera la reine rue du Bac et sur les quais, tandis qu'on l'attendra rue de l'Échelle. Au lieu de mettre un petit peigne dans sa poche pour ajuster sa coiffure en attendant que le coiffeur qu'elle a envoyé à la frontière répare les avaries du voyage, la reine fait faire un nécessaire splendide dont pendant deux mois s'occupent tous les bijoutiers de Paris. Au lieu de cacher le roi, valet de chambre ou intendant de Madame de Corf, dans une voiture de suite, on le met dans la voiture principale, face à face, genoux à genoux, avec sa prétendue maîtresse. Au lieu d'atteler la voiture de deux, de trois et même de quatre chevaux, on l'attelle de six, sans se souvenir que le roi seul voyage à six chevaux. Au lieu d'armer les gardes du corps jusqu'aux dents, on leur met aux côtés de petits couteaux de chasse, bons tout au plus dans une lutte corps à corps, et on entasse dans les malles les pistolets et les tromblons, couchés sur l'habit rouge brodé d'or que le roi portait à Cherbourg. Au lieu, enfin, de prendre M. Dagout, cet homme résolu qui connaît parfaitement la route et dont M. de Bouillé a répondu au roi, on prend Mme de Tourzel, gouvernante des enfants de France. Mme de Tourzel a réclamé son droit au nom de l'étiquette. Elle l'emporte sur M. Dagout, qui réclamait le sien au nom du dévouement. À part cela, toutes les précautions sont prises. On s'était inquiété d'abord de la chose la plus difficile, à savoir de quelle façon on sortirait des Tuileries. La famille royale était bien réellement prisonnière. Lafayette en répondait à l'Assemblée. 600 gardes nationaux, tirés des différentes sections de Paris, montaient chaque jour et chaque nuit la garde aux Tuileries. Deux factionnaires à cheval se tenaient constamment devant la porte extérieure. Des sentinelles étaient postées à toutes les portes du jardin et sur la terrasse de la rivière, elles étaient échelonnées à 100 pas les unes des autres. À l'intérieur, c'était bien autre chose encore. Il y avait des sentinelles jusque dans les issues qui conduisaient au cabinet du roi et de la reine, jusque dans un petit corridor noir pratiqué dans les combles et auquel aboutissaient les escaliers dérobés consacrés au service de la famille royale. Plus de gardes du corps. Les gardes du corps avaient été licenciés. Les officiers de la garde nationale avaient remplacé. Le roi et la reine ne sortaient que sous l'escorte de deux ou trois d'entre eux. En outre, la plupart des valets étaient des espions. On se souvient de ce que nous avons dit de Madame de Rochereule, femme de chambre de Monsieur le Dauphin. Comment échapper à une telle surveillance? La reine y avait longtemps réfléchi. Voici ce qu'elle avait trouvé. Madame de Rochereule, dont le service finissait le 12, occupait une petite chambre dont la porte donnait sur un appartement vide depuis 6 mois. L'appartement vide était celui de M. de Villequier, premier gentilhomme de la chambre. Il était vide parce que M. de Villequier avait émigré. Cet appartement, situé au rez-de-chaussée, avait une issue donnant sur la cour des princes. De son côté, la chambre de Madame de Rochereule, tout en ayant une porte de communication avec l'appartement de M. de Villequier, attenait à la chambre de Madame Royale. Le 11, à peine Madame de Rochereule eut-elle quitté le château, que le roi et la reine visitèrent sa chambre. Sous le prétexte d'agrandir le logement de Madame Royale, la reine déclara qu'elle retenait cette pièce et que la femme de chambre de Monsieur le Dauphin logerait désormais dans l'appartement de Madame Chimay, dame d'honneur. Quant à l'appartement de Monsieur de Villequier, on en demanda la clé à Monsieur Renard, inspecteur des bâtiments. Monsieur Renard remit cette clé au roi le 13 juin. Si nombreuses que fussent les sentinelles, on avait négligé d'en mettre une à la porte de cet appartement, vide depuis 3 mois. En outre, à 11 heures du soir, les sentinelles des cours étaient habituées, le service du château finissant, à voir sortir beaucoup de monde du même coup. Une fois dans l'appartement de M. de Villequier, une fois 11 heures sonnées, il y avait donc chance que l'on sortirait du château. Quant à faire traverser Paris à la famille royale, cela regardait M. de Fersen. Il attendrait avec un fiacre et déguisé en cocher de fiacre au guichet de l'échelle et conduirait les fugitifs du guichet de l'échelle à la barrière de Clichy, où la berline de voyage était remisée chez un Anglais, M. Crawford. Les trois gardes du corps suivraient dans un fiacre. Les deux femmes de chambre, Mme Brunier et Mme de Neuville, gagneraient à pied le pont royal. Là, elles trouveraient une voiture à deux chevaux stationnant et dans laquelle elles partiraient pour Clay, où elles attendraient la reine. Le roi devait sortir déguisé, nous l'avons dit, en intendant. Ce déguisement consistait en un habit gris, une veste de satin, une culotte grise, des bas gris, des souliers à boucles et un petit chapeau à trois cornes. Ses cheveux étaient tassés, relevés sur le haut de la tête et retenus par un peigne d'ivoire. 8 jours d'avance, le valet de chambre U, qui était de la même taille que le roi, sortit par la porte et à l'heure où le roi devait sortir. Cette sortie avait pour but d'habituer la sentinelle à voir l'homme vêtu de gris. Quant à M. le Dauphin, on devait, pour le déguiser, l'habiller en fille. Est-ce bien tout ? Je ne veux oublier aucun détail. C'est tout. On a vu qu'à 9 heures du soir, la reine avait expédié Léonard à M. de Choiseul et que tous deux étaient partis à fond de train. À la même heure, les trois gardes du corps étaient introduits chez le roi et enfermés dans un petit cabinet. À 9h30, la reine recevait une lettre de Bailly. Le bon mathématicien s'avisait de faire le chevalier. Il envoyait à la reine une lettre de Madame de Rochereule dénonçant le départ de la famille pour la nuit même. À 10 heures, on annonça M. de Lafayette. Il n'y avait pas moyen de lui refuser la porte. On le fit entrer. Il était avec messieurs de Gouvion et Romeuf, ses aides de camp. Madame de Rochereul, maîtresse de M. de Gouvion, avait averti celui-ci que la fuite de la famille royale était préparée pour la nuit même. La reine et Madame Élisabeth étaient allées dans la soirée, mais sans escorte bien entendu, faire une promenade au bois de Boulogne. M. de Lafayette, avec sa politesse exquise, s'informa près de la reine si la promenade avait été bonne. Seulement, il ajouta en souriant « Votre Majesté a tort de rentrer si tard. »« Pourquoi donc ?» demanda la reine. « Mais parce que le brouillard du soir pourrait lui faire mal. »« Les brouillards du soir au mois de juin » dit-elle. « À moins que je n'en fasse faire exprès pour cacher notre fuite, je ne sais pas où j'en trouverai. » ajouta la reine avec une admirable assurance. « Car je présume que le bruit court toujours que nous partons. »« Le fait est, madame, répondit le général, que plus que jamais on parle de ce départ, à ce point que j'ai reçu avis qu'il avait lieu ce soir. »« Ah ! » dit la reine, « je gage que c'est de M. de Gouvion que vous tenez cette bonne nouvelle. »« Et pourquoi de moi ? » demanda le jeune officier en rougissant. « Je ne sais, dit la reine. Peut-être avez-vous des intelligences au château. Tenez, voici M. de Romeuf qui n'en a point. Je suis sûre qu'il voudra bien répondre de nous. » « Et je n'aurai pas grand mérite à cela, madame, dit le jeune homme, le roi ayant donné à l'assemblée sa parole de ne point quitter Paris. » On parla d'autre chose. À 10h30, le général Lafayette et ses aides de camp se retirèrent. Monsieur de Lafayette parti, la reine et Madame Élisabeth appelèrent leur domesticité, se firent rendre par elle les services ordinaires de la toilette du soir. Puis, à 11h, selon la coutume, elles congédièrent tout le monde. Les portes fermées, chacune se mit à sa toilette. La reine et Madame Élisabeth s'habillèrent mutuellement. Elles avaient des robes fort simples et des chapeaux à larges bords qui cachaient entièrement leur visage. Elles achevaient à peine d'épingler leurs fichus que le roi entra dans son costume d'intendant. On tira les trois gardes du corps de leur cachette. Puis l'on passa chez Madame Royale. Madame Royale était prête, mais pas encore Monsieur le Dauphin. On l'avait réveillée dans son premier sommeil et, comme on avait décidé que pour le déguiser lui aussi, on l'habillerait en fille, il avait fait toutes sortes de difficultés pour revêtir un costume qui l'humiliait. Enfin, il avait demandé si c'était pour jouer une comédie. On lui avait répondu que oui, et comme il aimait fort la comédie, il s'était laissé faire. On donna aux gardes du corps leurs dernières instructions. Jusqu'à Bondy, on allait avec les chevaux de M. de Fersennes. À Bondy, on prenait la poste. M. de Malden et M. de Moustier, placés sur le siège, paieraient les postillons, auxquels il serait accordé 30 sous de guide. Ordinairement, on n'en donnait que 25, mais vu la lourdeur de la voiture, on augmentait de 5 sous. Quand les postillons auraient bien marché, ils recevraient, à titre de gratification, 10 sous de plus. Dans aucun cas, il ne serait payé plus de 40 sous. Le roi seul payait un écu. On avait calculé qu'en payant 30 ou 40 sous de guide et en allant très médiocrement vide, on serait en 13 ou 14 heures à Châlons. Chacun promit de s'en tenir au programme arrêté. On s'avança vers la porte, on écouta, tout était silencieux. On commença de sortir. Madame Élisabeth d'abord avec Madame Royale. Puis Madame de Tourzel et le Dauphin, accompagnés d'un des gardes du corps. Les deux groupes devaient marcher à 20 pas l'un de l'autre. Une des sentinelles croisait le chemin. En voyant venir le premier groupe, elle s'arrêta. « Ah, ma tante !» dit Madame Royale. « Nous sommes perdus ! Cet homme nous reconnaît !» Madame Élisabeth ne répondit pas et continua son chemin. Madame Royale se trompait. Elle n'était point reconnue. Ou, si elles l'étaient, elles étaient reconnues par un ami. La sentinelle leur tourna le dos et les laissa passer. Au bout de 5 minutes, Madame de Tourzel, les deux princesses et le dauphin furent dans le fiacre qui les attendait au coin de la rue de l'Échelle. Monsieur de Fersennes était si bien déguisé que les princesses ne le reconnaissaient pas. Ce fut lui qui les reconnut. Il sauta à bas de son siège, leur ouvrit la portière et les fit monter. Au moment où M. de Fersennes refermait la portière, un fiacre passa à vide. Voyant un confrère arrêté, il s'arrêta aussi et entama avec M. de Fersennes une conversation sur les affaires du temps. M. de Fersennes, homme d'esprit, la soutint à merveille et, tirant de sa poche une tabatière de carton, il offrit une prise à son collègue. Celui-ci plongea profondément ses doigts dans la tabatière, savoura longuement et voluptueusement la poudre qui, selon Sganarelle et Aristote, n'a point d'égal, et partit. Le roi vint ensuite d'un pas ordinaire, les mains dans ses poches et se dandinant comme un bon bourgeois. Il était suivi par un second garde. Pendant le trajet, une des boucles de ses souliers s'était détachée. Il n'avait point voulu s'arrêter pour cela, mais le garde qui venait après lui avait ramassé la boucle. Monsieur de Fersennes alla au-devant de Sa Majesté. « Et la reine, sire ? » demanda-t-il. « La reine nous suit, » répondit le roi. Et il monta dans la voiture à son tour. On attendit la reine. Au bout d'une demi-heure, elle n'était pas encore arrivée. Que faisait-elle donc ? La reine s'était perdue. Elle avait soutenu à son guide, le troisième garde du corps, que le guichet de l'échelle était à droite. Il avait, lui, soutenu, mais faiblement, il connaissait à peine Paris, que le guichet de l'échelle était à gauche. Enfin, la reine avait paru si sûre de son fait qu'il avait cédé. On était sorti par le guichet du bord de l'eau, on avait erré sur les quais, on avait traversé le pont, on s'était enfoncé dans la rue du Bac. La reine avait bien été forcée de reconnaître son erreur, mais on était complètement désorienté. Le garde fut forcé de demander le guichet de la rue de l'Échelle. Il fallait traverser le carrousel une seconde fois. Sous la voûte, on se trouva en face de la quai portant des torches et d'une voiture sortant au grand trot. Pour ne pas être écrasée, la reine n'eut que le temps de s'effacer contre la muraille. Elle reconnut Lafayette. Le garde se jeta devant elle pour la cacher. Mais elle, l'écartant vivement, frappa les roues de la voiture de la petite canne que les femmes portaient à cette époque, en disant « Va, geôlier, je suis hors de ta puissance !» Ceci n'est qu'une tradition. Le garde, au contraire, prétend dans son récit que la reine eut si grand peur qu'elle quitta son bras et s'enfuit. Il courut après elle, lui prit le bras et l'entraîna vivement. On traversa le carrousel à grands pas, puis le guichet de l'échelle. Enfin, on aperçut le fiacre qui stationnait. Monsieur de Fersennes s'élança au-devant de la reine et la fit monter dans le fiacre, où elle tomba toute frissonnante près du roi. Ma mère, en montant, dit Madame Royale dans ses mémoires, marcha sur mon frère, qui eut la force de ne pas crier. Monsieur de Fersen avait arrêté un fiacre pour les trois gardes du corps. Ils y montèrent, donnant ordre au cocher de suivre l'autre voiture. Monsieur de Fersen, qui ne connaissait guère mieux Paris que le garde du corps qui avait servi de guide à la reine, n'osa s'engager dans les rues. Il alla jusqu'au faubourg Saint-Honoré en longeant les Tuileries. De là, on gagna la barrière de Clichy. Quelques pas avant la maison de M. Crawford, les gardes du corps descendirent, payèrent et renvoyèrent leur fiacre. Ils avaient leur place sur le siège et derrière la voiture royale. La berline de voyage était à son poste. La transvasion s'opéra. M. de Fersen versa son fiacre dans un fossé, puis monta sur le siège de la berline. Un homme à lui monta à cheval et conduisit à la Daumont. On mit une heure à peine pour arriver à Bondy. Tout avait été à merveille. À Bondy, on trouva les deux femmes de chambre qui devaient attendre à Claye. Elles étaient venues en cabriolet, croyant trouver à Bondy une voiture de poste. Elles n'en avaient point trouvé et avaient acheté au maître de poste un cabriolet 1 000 francs. Le cocher de l'autre cabriolet faisait souffler son cheval avant de revenir à Paris. Là, M. de Fersen devait quitter leur majesté. Il baisa les mains du roi pour avoir le droit de baiser celles de la reine. M. de Fersen devait les rejoindre en Autriche. Il rentrait à Paris pour savoir ce qui s'était passé. Puis il partirait incontinent pour Bruxelles. L'homme propose, Dieu dispose. La reine devait, 2 ans plus tard, avoir la tête tranchée sur la place de la Révolution. M. de Fersen devait périr dans une émeute à Stockholm, tué à coups de parapluie par des femmes ivres. Par bonheur, un nuage leur cachait l'avenir. On se quitta plein d'espérance. M. de Valory enfourcha un cheval de poste et courut en avant pour commander les chevaux. Messieurs de Malden et de Moustier prirent place sur le siège de la berline qui partit, enlevé au galop de 6 vigoureux chevaux. Le cabriolet partit après elle. M. de Fersen suivit des yeux et des oreilles ce tourbillon de poussière et de bruit. Puis, quand la trombe eut disparu, quand le bruit se fut éteint, il remonta à son tour dans sa voiture qu'il avait conduite la veille à Bondy et à laquelle on attela les chevaux qui venaient de mener la reine. Il avait son costume de cocher de fiacre, ce qui étonna fort le cocher de cabriolet qui le regardait faire. C'était une imprudence de plus à ajouter à celle que nous avons déjà signalée.